19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
J'aime le générique. Il me transporte. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. 19h-20h, nous sommes ensemble durant une heure, justement pour commenter, décrypter, analyser l'actualité. Alors, au programme au sommaire, voici ce qui vous attend. Crac à Paris, les riverains, tout le monde, si vous voulez, crie un cri d'alarme, un cri de désespoir, entre colère et plein de choses. Nous serons avec le collectif représenté, incarné par Tarak Sassi, qui viendra nous expliquer les derniers événements et puis surtout sa dernière actualité. Tout à l'heure, 01 53 48 3000, nous tenterons de commenter le sondage, le dernier sondage qui propulse Zemmour au second tour, justement, des élections présidentielles. Tiens, face à Emmanuel Macron. Mais où est passé Marine Le Pen? Mais où est passé Xavier Bertrand? Mais où est passé surtout le Parti Socialiste, diront certains? Eh bien, on se posera la question. Et en tout à l'heure, 19h30, c'est le docteur Majid Sioussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, qui viendra, lui, et son billet d'humeur avec sa carte blanche. Et enfin, le face-à-face, c'est celui qui est le patron de l'IPSE, avec Gamal Abina, Emmanuel Dupuis face à Gamal Abina, un match attendu justement, un face-à-face, qui vont commenter trois sujets d'actualité avec la police, les jeunes. Que faire désormais? Quelle solution? Est-ce que c'est la justice? Où doit-on mettre les moyens? Nous commenterons aussi les élections présidentielles qui approchent à grands pas. On a 6 mois. 6 mois les amis, ça passe hyper vite, on va en parler. Voilà ce qui vous attend et une heure, ça passe très très vite. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et surtout plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Eh bien c'est parti, tout de suite l'invité actu.
Les informés, l'interview.
Allô?
Ah, voilà, le micro ne marchait pas, comme quoi c'est du live.
Oui, allô.
Bonjour Tarak Sassi.
Bonjour, bonjour Adil, heureux de revenir dans ton émission.
Mais bien sûr, avec grand plaisir mon cher Tarak Sassi, vous êtes membre, fondateur du collectif Paris Anti-Crack. Vous êtes un médiateur insertion et un médiateur sport et insertion. Dites-moi, où en êtes-vous aujourd'hui depuis notre dernière discussion? Parce que moi j'ai eu le maire de Pantin, on en a parlé à plusieurs reprises de cette histoire. Les auditeurs ont réagi entre le mur de la honte de Pantin, les jardins et puis surtout le village thérapeutique. Où en est-on, mon cher Tarak Sassi?
Alors, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, malheureusement, l'actualité fait les aventures de Zemmour et que les médias parlent plus des aventures de Zemmour comme c'était les aventures de Martine,
oui,
plutôt que les galères que nous rencontrons aujourd'hui. On ostracise constamment les musulmans, on crée des histoires sur les musulmans, alors que la population musulmane est la première victime de cette situation et de cette insécurité, de cette ultra-violence qui est en train de dévorer les quartiers populaires.
C'est-à-dire, mon cher Tarak Sassi, c'est-à-dire, dites-nous, vous qui êtes le fondateur du collectif Paris Anti-Crack, c'est-à-dire, dites-nous.
Aujourd'hui, qui c'est qui subit de plein fouet aujourd'hui l'ultra-violence, la mendicité agressive, les agressions et les cambriolages, dont moi-même j'en ai été victime?
Aïe.
Ce sont en grande partie les gens issus de classes populaires, dont beaucoup de personnes issues de l'immigration, et dont les mêmes musulmans qu'on ostracise constamment de vouloir faire le mal de la France, c'est eux-mêmes. Moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est monsieur Zemmour, au lieu de vous balader dans une ville tranquille comme Drancy, vous auriez dû venir à Port-de-la-Villette, vous auriez dû venir à Port-de-la-Chapelle. Mais encore une fois, on prend ces gens-là, on les met partout, on leur donne le temps d'antenne. Nous, aujourd'hui, on nous fait oublier. Aujourd'hui, les chaînes qui parlaient de nous nous oublient totalement pour mettre en avant...
Oui, parce que je sais que vous étiez passé chez nous ici, sur Beur FM, dans les informés, je me souviens très bien d'ailleurs. Et puis, vous avez été reçu par d'autres médias, dont BFM TV. Aujourd'hui, où en êtes-vous depuis ce mur que vous qualifiez le mur de la honte, qui est le mur de Pantin et qui est entre la périphérie de Paris? Où en est-on précisément? Vous aviez proposé, je me souviens bien, quand vous étiez passé à l'antenne, des centres, des villages thérapeutiques, loin des habitants. Et puis vous avez parlé aussi surtout de solutions concrètes. On est de vous avec la mairie de Paris, avec Madame Anne Hidalgo. On est de vous aujourd'hui avec la situation.
Moi, je peux dire aujourd'hui qu'il y a un pourparler avec la mairie de Paris et l'adjoint à la sécurité de 19e arrondissement qui est enclin à la discussion et que je salue à travers ce passage. Aujourd'hui, la prévention, plus que jamais, elle doit avoir lieu quand on sait que nos médias sont dominés par des fictions qui mettent en avant des héros qui sont trafiquants de drogue et de crack. On n'oubliera pas non plus que Skyrock diffuse des artistes comme SCH qui disent une casserole et ça fait du crack. La médiation et la prévention est plus que jamais importante et malheureusement on ne nous donne pas encore les moyens. On a proposé des solutions efficaces avec des addictologues. Les collectifs rassemblés ont permis à 15 toxicomanes de se sevrer en maison de campagne. Ah. Tous étaient volontaires. Sur les 15, seuls 2 sont retombés. Aujourd'hui, quels sont les résultats de la politique de Gaïa et de Aurore que le maire de Pantin soutient? La chose que le maire de Pantin ne dit pas, c'est qu'il soutient cette politique-là et qu'il a infiltré le collectif qu'on a créé, le collectif 93 anti-crack, à travers aussi, bien sûr...
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au maire de Pantin? Il était chez nous il y a encore quelques semaines, en direct, dans Les Informés.
Et j'ai envie de lui dire, monsieur Kern, vous n'avez pas agi à temps, ni vous et ni madame Franklin, la maire d'Aubervilliers, quand monsieur Mohamed Bader vous avait prévenu de ce qui allait se passer. Maintenant, ne venez pas récupérer et faire de la récupération des collectifs qui sont pour la population. Laissez les gens se monter en collectif, monter des actions légales, juridiques et associatives. On demande aujourd'hui aussi à ce que ces politiques et surtout le ministre Darmanin arrête de nous mépriser. Quand il est capable de recevoir Gaïa et Aurore et que nous, il ne nous reçoit pas malgré tous nos courriers et toutes les manifestations que nous organisons, c'est tout simplement du mépris sur du mépris.
J'espère que votre message sera entendu. Vous savez que systématiquement, les autres médias sont très attentifs à ce qui se passe ici, d'ailleurs, dans Les Informés. Régulièrement, d'ailleurs, ils viennent, et tant mieux, ça veut dire qu'on provoque le débat. Tarak Sassi, je vous vois en colère. Pour quelle raison vous êtes en colère?
On a eu des paroles qui ont été données de la part des médias parce qu'on a beaucoup de choses à révéler, dont Cyril Hanouna, qui a préféré inviter des députés, des addictologues bidons, plutôt que de parler des personnes qui sont sur le terrain, qui connaissent ce qui se passe, qui savent comment sont structurés aussi tous ces réseaux de groupes criminels organisés qui, pour beaucoup, sont protégés. Qui sont les premières victimes? Beaucoup sont des publics vulnérables et des mineurs. Et jusqu'à maintenant, on ne nous donne pas la parole dans les médias. On donne toujours la parole aux mêmes personnes. Et les personnes qui sont vraiment sur le terrain, qui mangent, excusez-moi de le dire, mangent la mer tous les jours et qui se battent, on ne leur donne pas la parole. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas partie de la belle caste show businessique.
Vous pensez vraiment, Tarak Sassi, vraiment?
Je le pense très rarement. Quand on donne la parole à un Jean Messia, à une Elisabeth Lévy, qui vont mépriser pour un drapeau tunisien qui était sur une affiche sportive et qui ont cassé les déclarations que j'avais à faire chez Pascal Praud, juste pour ça, c'est pas possible. Et moi, ce que j'aimerais dénoncer, c'est qu'aujourd'hui, ces collectifs et ces gens qui se battent, on les met sous silence pour parler uniquement que des aventures de Zemmour, comme c'était les aventures de Martine, et qu'on donne la parole à des racistes, et je dis bien des racistes, des xénophobes, comme Jean Messia et Elisabeth Lévy, qui ont du mépris pour notre population et pour notre souffrance. Ils n'en ont rien à foutre des ravages du crack, ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers, de l'ultra-violence américaine qu'on a ici. Tout ce qu'ils veulent, c'est cibler les musulmans, les maghrébins à longueur de temps, sans comprendre que cette crise du crack, elle est voulue en haut lieu.
Elle est voulue en haut lieu, vous le pensez très fort. J'entends votre colère, j'entends votre coup de gueule aussi, parce que c'en est un aussi, Tarak Sassi. Il y a une image que je voudrais vous faire commenter sur votre réseau social, sur celui précisément qui concerne Facebook, Collectif Paris Anti-Crack. Il y a une photo qui m'a interpellé, d'ailleurs, que vous m'avez envoyée, que j'aimerais commenter avec vous. On voit une salle de shoot dans les grands boulevards. Qu'est-ce que c'est que cette image avec ce petit encadré qui est marqué salle de shoot? Et puis, à peine deux mètres, si vous voulez, du musée du chocolat, là, vous faites référence à 12 000 scolaires par an, est égal à 400 écoles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
On veut dire tout simplement que on veut à tout prix mettre des salles de shoot dans des endroits où on ne peut pas mettre ces salles de shoot. Vous avez dans ce grand boulevard un musée de la chocolaterie qui est très fréquenté, entre autres, par un public scolaire. Et on méprise totalement ça pour pouvoir utiliser un souterrain qui va servir d'espace comme salle de shoot au mépris des habitants du 10e arrondissement qui subissent déjà la salle de la Riboisière, et la salle de la Riboisière qui est aujourd'hui un fléau aussi bien pour le 18e, le 19e, le 10e, le 9e et le 2e. On va ajouter encore une autre salle de shoot. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de la prévention. On ne veut pas, l'État ne veut pas assumer aussi les conséquences du confinement, des confinements à répétition, des 2 ans de crise sanitaire qui ont créé des toxicomanes endurcis qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et ça, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La République En Marche, qui n'était pas forcément pour aujourd'hui, ouvre le terrain, comme cette Caroline Janvier, qui est députée du Loir-et-Cher, qui normalement devrait s'occuper plutôt des loutres et des anguilles, qui est dans sa circonscription, plutôt de venir s'occuper des toxicomanes de Paris, parce qu'elle ne comprend pas le terrain. Je préfère que ce soit un député comme Majopi ou Obono qui s'occupe de ce dossier plutôt qu'elle. Et elle vient nous faire des amendements sur le prolongement des salles de shoot, de l'expérimentation, mais en plus, la prolongation sur d'autres salles qui s'occupent de toxicomanes, alors qu'elle ne comprend rien à ce qui se passe et qu'elle ne se paladerait pas, elle, jeune dame assez jolie et blonde, elle ne se baladerait pas dans les rues dans lesquelles j'habite. Donc pourquoi elle vient faire ça ?
Dites-moi, Tara, oui, c'est une vraie question, vous avez raison de la poser, Tara Ksassi. Dites-moi, la sédentarisation des toxicomanes, du trafic de drogue, justement, qui est très présent d'ailleurs, un jardin, le jardin Éole, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est investi ?
Alors, ce n'est plus le jardin Éole, aujourd'hui c'est le parc Auguste Baron, à la porte de la Villette.
J'allais en parler, justement.
Qui donne, alors il faut bien savoir, qui donne sur le tramway 3, depuis qu'on a installé les toxicomanes, et aujourd'hui ils sont plus de 500.
Oui.
Ils sont à côté d'un camp de migrants.
Alors moi on m'a donné un chiffre, c'est entre 300 et 400, mais bon, si vous dites plus de 500...
Non. Plus de 500, on est passé tout à l'heure, plus de 500. On devait même faire un reportage qu'on a dû annuler parce que on a fait envoyer un petit toutou de la mairie pour essayer d'encadrer tout ça, donc on a refusé de faire ce reportage. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu plus de 500 personnes totalement désorganisées. La police que le ministre de l'Intérieur avait promis, elle n'existe pas sur la place Auguste Baron. Et aujourd'hui, c'est plus de 500 personnes qui sont sans encadrement, sans abri, sans rien du tout, qui sont à la merci des trafics de drogue, de l'esclavage humain, des viols, de la prostitution, de l'overdose. Et on a créé...
Mais c'est très inquiétant ce que vous êtes en train de nous dire, ça.
C'est une réalité et ça se répand. Aujourd'hui, on a plus, à travers ce camp, on a plus d'une centaine de toxicomanes qui sont à Porte-de-la-Chapelle, donc Porte-de-la-Chapelle se reforme. Stalingrad est toujours investi. Châtelet, non seulement Châtelet est investi, mais en plus les trafiquants de drogue blanchissent l'argent dans les chaînes YouTube où on harcèle des filles à travers des micro-trottoirs. Donc la police est...
C'est vraiment ce que vous dites, hein. C'est vérifié,
Bien sûr que c'est vérifié, bien sûr que c'est vérifié. Bien sûr que c'est vérifié, on est sur le terrain, on connaît. On va pas nommer, par rapport à diffamation, hein. On va pas nommer le nom.
C'est pas notre rôle de nommer les noms, non, bien sûr.
Vous savez très bien que même quand vous dites la vérité, aujourd'hui, n'importe qui porte plainte pour diffamation et lui donne raison.
Mais dites-moi, alors, vous confirmez ce que vous avez dit il y a quelques semaines sur notre antenne, vous avez dit, évidemment, le crack, vous êtes à la fois préoccupé, mais vous dites c'est une destruction de notre jeunesse aujourd'hui. Vous le confirmez ?
C'est une destruction de notre jeunesse et ce n'est pas un fléau parisien, c'est un fléau national qui est en train de dévorer Lyon, Rouen, Bordeaux et d'autres villes de France, mais pas que. Le crack frappe dans le Maghreb, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Libye, au Cameroun, près de 25% de la population ont déjà consommé le crack. En Afrique du Sud, ça fait des ravages énormes. Au Congo, il y a un dérivé du crack qui s'appelle le bomber, fait à base d'huile de moteur.
Donc cela est en train de faire des ravages, vous confirmez, et ça prend de l'ampleur. Vous nous le dites solennellement sur l'antenne des informés.
Je vous le dis solennellement, depuis toutes les guerres qu'on a eues en Syrie, les printemps arabes, il y a une libéralisation et une invasion des drogues dures, et en particulier le crack, pour sa facilité de fabrication, dans quasiment tous les pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique. En Amérique, c'était déjà là.
Et en France, moi je parle de la France, et en France ?
En France, on dénombre aujourd'hui plus de 13 000 usagers. Plus de 13 000 usagers de crack sur les 150 000 toxicomanes qu'il y a en Île-de-France. Imaginez 150 000 toxicomanes, c'est l'équivalent de la population de Saint-Denis. Mmh. Et 13 000, c'est l'équivalent d'une ville comme Saint-Geneviève-des-Bois.
Ah, c'est beaucoup. Quel est votre message d'alerte, mon cher Tara Ksassi ?
Mon message aujourd'hui, c'est déjà premièrement à Matignon et au ministère de l'Intérieur de nous recevoir et d'écouter maintenant la voix des riverains, la voix des collectifs qui se battent depuis trop longtemps. Mon autre message, c'est de dire aux gens de ne plus se laisser avoir par les usurpateurs. Et le dernier message, c'est aux médias, donner la parole aux gens qui connaissent réellement les problématiques, qui connaissent vraiment ce qui se passe et qui donnent la parole à des vrais addictologues, pas à des pantins d'associations pour salle de shoot.
Les riverains continuent toujours de crier leur colère, Tarak Sassi ?
Toujours, là, en ce moment, là, je suis sur une manifestation, là, sur Aubervilliers. Donc, oui, toujours. Et ils crient. Et personne ne lâchera le terrain. Je tiens à saluer aussi bien Mathilda que Mohamed Bader, qui se bat avec le collectif 93 anti-crack pour faire monter et permettre aux gens de parler et les informer. Et nous lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien.
C'est ça. C'est un peu notre devise. Qui a été créé. Tarak Sassi, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous êtes le médiateur sport et insertion. Vous êtes également membre fondateur du collectif Paris Anti-Crack. Et je vous le dis, on fera une émission spéciale parce que vous me l'avez demandé. On a échangé au téléphone ensemble. Et vous aviez souhaité qu'on fasse une émission un peu spéciale pour alerter, sensibiliser. On aura l'occasion de le faire et on le fera.
Merci beaucoup.
Merci Tarak Sassi et à bientôt. 19h16. Sur l'antenne des informés, sur Beurre FM, nous allons marquer une courte pause pub. On va se retrouver à la fois avec les débatteurs, mais surtout, le standard est ouvert. 01 53 48 3000. Est-ce que, à 6 mois de la campagne présidentielle, mais surtout à cette fameuse élection ultime, importante, les élections présidentielles, est-ce que vous irez voter? Ou est-ce que vous avez envie de vous abstenir? Ou est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec tout ce qui se passe, vous envahissez évidemment tout votre entourage pour vous les pousser à aller voter. Ça m'intéresse et j'ai envie d'en parler avec vous. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est en direct jusqu'à 20h. Nous sommes ensemble. 01 53 48 3000. Les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vous attends. Le standard est ouvert. 01 53 48 3000 pour parler ensemble justement de deux sujets, celui des violences à Lyon, mais également aussi à Alençon concernant les véhicules incendiés. Vous savez, la police qui est prise pour cible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui? À qui la faute? Est-ce que c'est à la faute? Je pose la question. En tout cas, on doit en parler ensemble. Autre sujet qu'on doit commenter ensemble, les présidentielles 2022. Eh oui, les amis, Macron recule dans les intentions de vote, mais Le Pen et Zemmour progressent. Alors parlons-en, que comptez-vous faire? Et puis surtout, comment comptez-vous y prendre? Est-ce que la seule arme, c'est d'aller voter? Ou est-ce qu'il faut faire aujourd'hui beaucoup plus d'ailleurs, que ce qu'on a l'habitude de faire? 01 53 48 3000, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face. Le face-à-face.
En attendant vos appels au 01 53 48 3000, Emmanuel Dupuy, président de l'IPS. Bonjour mon cher Emmanuel.
Bonjour Adil.
Comment ça va? Tout va bien?
Oui, et bonjour Gamal, que je retrouve avec plaisir.
Oui,
enfin, je vous retrouve tous les deux.
Absolument.
Et surtout les auditeurs, avec grand plaisir.
Oui, qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre,
c'est grâce
à nous écouter.
C'est grâce à nous?
C'est grâce à tout le monde. Mais attendez, c'est
grâce à vous.
C'est grâce à vous,
Adil.
Non, c'est un travail d'équipe, collectif. C'est comme le foot. Voilà, on avance ensemble. C'est exactement ça.
On est ensemble.
Y compris les auditeurs. 01 53 48 3000. Gamal Avina, bonjour.
Bonsoir.
Réalisateur,
Adil.
Évidemment, et militant engagé sur les questions de société.
Et surtout d'antiracisme, il faut le rappeler.
Et surtout antiracisme. Je vais accueillir Rabat qui nous appelle de Lyon et ensuite après on va débattre tous ensemble. Bonsoir Rabat.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, j'habite à Vez. Je suis né à la Duchère.
Oui.
Je vous appelle pour parler de la Duchère.
Oui.
Écoutez, je suis contre ce qu'ils ont fait à la police et tout.
Oui.
Mais il faut savoir qu'à la Duchère, c'est un quartier qui a 60% de chômage.
C'est important votre appel, très important.
Ouais.
Est-ce que vous me confirmez, d'ailleurs, c'est pas une confirmation, non. Est-ce que vous trouvez-vous aujourd'hui que dans ce quartier... D'ailleurs, quelle est l'ambiance dans ce quartier? C'est la question que je vous pose, Rabat.
Il est tendu parce qu'il y a 60% de chômage.
Oui.
Que ce soit Gérard Collomb ou celui qui a repris maintenant, ils n'ont rien fait pour ce quartier.
Rien. Rien fait. Le quartier de la Duchère fait. Aujourd'hui, rien. Nada. Ouais, rien.
Absolument rien. Mmh. Et je pense que l'État est un peu coupable parce que bon, ils ont laissé ces jeunes, ça fait des années qu'ils dealent. Mmh. Ça fait déjà des
Est-ce
des
que vous
années...
me confirmez que c'est un lieu de deal très fort aujourd'hui, comme le disent certains, comme le disent certains?
Moi, je dirais que c'est pareil que samedi.
Oui.
Voilà, oui. Je dirais que parce que je suis chauffeur routier, je connais Saint-Denis aussi.
Oui.
Je dirais que c'est équivalent à Saint-Denis. Mais par contre, au niveau de la misère, c'est plus misérable que Saint-Denis.
C'est plus misérable que Saint-Denis.
Voilà.
Rabat, selon vous, est-ce qu'il y a des solutions pour évidemment pour sortir de ça? Parce que là, plus ça va dans le temps, plus la situation se dégrade.
Oui, tout à fait. Ben, la solution, je pense qu'il y a des éducateurs, ils devraient s'occuper de ces jeunes, et puis bon, pas les laisser. Ils sortent de l'école en sixième, en cinquième. Moi, je connais des jeunes qui sont en sixième, cinquième, et on leur fait rien du tout. Alors, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont faire le chouf, là, qui gagne 100 euros.
Oui.
Il y en a qui deal, et puis moi, je pense que l'État va laisser les faire leur vie, et puis on s'en fout d'eux.
Oui.
Et voilà. Et ouais. Moi, je pense qu'ils ont leur responsabilité. Là,
oui.
Parce que ça parle, mais ils n'ont rien fait pour ce quartier.
Ouais, donc il n'y a pas de volonté de lutter contre la délinquance, clairement.
Écoutez, ils sont arrivés à la délinquance pour Saint-Denis.
Ouais. Ouais.
Alors c'est pareil, la Duchère, vous savez, un jeune, quand il a je ne sais pas combien de grammes dans sa tête, et puis c'est de la coque et tout, là, il a un fusil, il tire, et après le lendemain, il regrette, il dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?»
Ouais. C'est important que vous soyez à l'antenne parce que vous êtes de Lyon, vous connaissez le quartier, vous connaissez l'ambiance.
Ouais.
Merci Rabat.
C'est moi et puis un de ces jours.
Un de ces jours, absolument. Bah, tous les jours, on est là. Aux informés 01 53 48 3000, Gamal Abina. La situation, elle est quand même préoccupante parce qu'aujourd'hui, c'est Lyon, c'est aussi Alençon avec 15 véhicules incendiés la nuit dernière avec des tirs mortiers sur la police. Ça ne va plus. Je pose la question. Ça ne va plus ?
Ça n'a jamais été depuis 30 ans, il faut être très clair. La coïncidence, elle est évidente, et c'est bien que cet auditeur nous l'ait rappelé, Rabat, c'est qu'il y a, lui, il a annoncé 60% de chômage à la Duchère. En règle générale, c'est une moyenne de 40% de chômage dans les quartiers. Alors évidemment, certains idéologues politiques comme Zemmour disent que les gens d'origine étrangère ne travaillent pas, ils sont au chômage pour 40%. Évident, évitant soigneusement la question de dire que s'ils sont au chômage, c'est qu'on ne veut pas d'eux. Pour des raisons évidemment éminemment raciales. Donc la délinquance existe et c'est toujours un corollaire de la misère. On a tendance à l'oublier. Et j'ai eu il n'y a pas longtemps un débat avec quelqu'un qui m'expliquait que la délinquance n'engendrait pas nécessairement la misère. C'est faux. Je veux dire, l'époque des rues...
Oui, c'est faux.
C'est totalement faux.
D'accord.
Un délinquant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a rien à faire d'autre que d'être dans l'errance, qui n'a pas d'objectif dans la vie, qui n'a rien à perdre et qui va gagner par des coups de malfrat. À l'époque des rues, ce qu'on appelait les rues coupe-gorge, à l'époque où il n'y avait pas d'étrangers, les rues coupe-gorge, c'était que des Français. C'est des rues dans lesquelles les gens étaient détroussés ou dépouillés, c'était le terme consacré, en leur ouvrant la gorge. Voilà ce qui se passait. La bourse ou la vie. À l'époque, on tuait pour l'argent. Aujourd'hui, il y a de la délinquance, effectivement, beaucoup d'affaires de drogue, beaucoup d'affaires de criminalité de basse intensité, c'est pas de la haute intensité. Et on envoie quoi pour régler le problème? Non pas du travail, non pas de l'éducation. On envoie la BAC, la Brigade Anti-Criminalité. C'est-à-dire qu'on utilise le terme de criminalité pour de la délinquance. Il y a un problème, il y a un mélange de genre qui est malsain, et le problème ne fait que s'amplifier, malheureusement.
Le phénomène ne fait que s'amplifier, mais j'aimerais quand même qu'on prenne le temps pour dire, est-ce qu'il faut mettre plus de moyens dans la police, plus de moyens dans la justice, plus de moyens auprès des magistrats, plus de moyens auprès... Évidemment, il faut qu'on se pose... Aujourd'hui, il est temps. Vous avez parlé de 30 ans, de 10, 40 ans. Emmanuel Dupuy, vous répondez quoi?
Je pense que c'est un mix de tout ça. Il ne faut pas que la police se substitue à la justice. Il faut que la justice fasse son travail, que les policiers également. Mais qu'avant tout ça, il y ait de la prévention. Gamal a raison. Il n'y a pas un fatalisme à ce qu'il y ait certains quartiers qui soient ancrés dans la misère pour toujours. La question, elle est simple. C'est une question sociale. Avant d'être une question sociétale. Bon, après, il y a des phénomènes aggravants. Le caractère périphérique, plus vous êtes éloigné des centres-villes, moins vous avez une capacité d'action des services publics. Plus vous êtes éloigné des centres-villes, plus vous mettez du temps pour aller chercher un emploi. Plus vous avez des difficultés à accéder à l'éducation. C'est tous ces phénomènes-là. Le phénomène de ghettoisation, sans jeu de mots. C'est ce que ça veut dire. Juste... On met à part.
Alors,
je réponds à votre question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est un mix.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les jeunes. Certains disent que les jeunes veulent en découdre avec la police. D'autres, disons-le clairement, il y a des guetteurs, il y a les jeunes d'un côté, il y a les guetteurs de l'autre, il y a les postes de deal, etc.
Vous parlez des trafiquants, pas des jeunes.
Bah, aujourd'hui à
les
Lyon
trafiquants
et à Alençon,
peuvent être jeunes, mais c'est pas les jeunes, ce sont les trafiquants.
Trafiquants. Je veux qu'on parle de tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, comme certains le disent, les jeunes veulent en découdre avec la police, oui ou non?
Certains qui sont trafiquants, pas les jeunes.
Oui, bien sûr.
Oui.
Oui. Ah, et c'est aussi simple que ça ma réponse.
D'accord.
Vous donneriez l'impression que quand vous habitez dans un lieu qui est défavorisé, tous les jeunes sont de...
Heureusement que non.
C'est bien précisément là.
Heureusement.
Il faut s'opposer à la délinquance et faire en sorte que la délinquance ne soit pas une alternative.
Et il n'y a que des choses positives.
Au respect du droit ou à la justice. C'est aussi basique que ça.
Gamal Abina.
Les travailleurs sociaux avec lesquels je m'arrive de bosser, parce que je discute avec Parle Monde, je suis dans le 93 pour travailler, donc j'ai l'occasion de les rencontrer, m'expliquent par exemple un phénomène que un certain monsieur Z ne dira pas. Il m'explique que depuis, et c'est ça qui est extraordinaire, depuis que l'ultralibéralisme Uber est arrivé, il y a une baisse de pression sur la question du chômage. C'est-à-dire que Uber a libéré des jeunes qui ont pu créer leur emploi, un emploi sous-payé, mais pour lequel ils travaillent 12 à 14 heures par jour. Ça, c'est des réalités qui démontrent deux choses. La première, c'est que ce sont pas des feignants, contrairement à l'idée reçue. Mmh. Il n'y a pas d'essence de délinquance dans cette jeunesse, pas du tout. Et la seconde, c'est qu'ils préfèrent travailler honnêtement plutôt que faire le petit trafic qui leur coûte des années de prison. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si effectivement on laisse la possibilité à ces gens de bosser, d'avoir accès d'abord soit au travail, soit de pouvoir créer leur emploi avec un soutien bancaire imposé, parce que les banques ne financent pas les créateurs d'entreprises s'ils ne sont pas suffisamment compétents et s'ils n'ont pas la bonne couleur en général. Donc ces questions-là se posent, et si on veut régler la question effectivement de la délinquance qui est normale, qui existe dans les misères, pour la régler, il faut travailler, c'est tout, et travailler sur la question sociale.
La question sociale, on doit injecter un peu plus d'argent, où précisément? La justice, la police, les jeunes, les associations, les éducateurs, où?
Partout.
Je voudrais vraiment,
là où vous l'avez cité. En tout cas, il ne faut surtout pas donner l'impression...
Est-ce que la République a déserté les quartiers populaires?
Ça, c'est une autre question. Par rapport à la prioritisation des financements, premièrement, ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui sont dans un sentiment d'abandon, et que c'est avant tout les populations qui sont abandonnées.
Bien sûr.
Faut avoir ça à l'esprit. Les familles qui sont désœuvrées, les familles qui n'ont pas la capacité de pouvoir faire entendre raison quand effectivement le quartier est sous la coupe de gens qui partent du principe que la justice ou l'état de droit nuit à leurs affaires. Par substitution, ce qui se passe en France et s'est passé exactement de la même manière en Italie, dans les années 50, quand l'État n'était pas là. Eh ben le caractère délictueux, le caractère mafieux,
ouais,
le caractère criminel a été une alternative comme une autre.
Un substitut, quoi.
Un substitut. Mmh. Et ce qui se passe dans d'autres endroits de la planète où l'État n'étant pas suffisamment présent, c'est ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse le rapport entre le centre et la périphérie.
C'est clair.
Un certain nombre des États du Maghreb avaient un taux de croissance fort, mais pourtant, dès que vous quittiez la côte, l'État capital, vous aviez la réalité du pays,
la
avec
Tunisie,
les jeunes qui se révoltaient parce qu'il y avait cette exclusion sociale.
Très intéressant ce que vous dites.
Il faut évidemment tenir compte.
Emmanuel Dupuy.
Vous m'avez dit, où est-ce qu'il faut mettre l'argent?
Je vous laisse. Attendez, 19h31, juste avec un léger retard, je vous redonne la parole, promis. Justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Le quoi de neuf, et on revient justement sur ce débat. Je voudrais vraiment qu'on prenne le temps d'en parler, et y compris avec les auditeurs au 01 53 48 3000. Le quoi de neuf?
Les informés, le quoi de neuf?
Le quoi de neuf, c'est comme tous les mercredis avec le docteur Majid Sihoussine. Bonsoir.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, vous êtes chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides chez les militaires. Je vous écoute avec un sujet particulier. Ce soir, vous avez décidé de parler de...
De la reine d'Angleterre.
Allons-y, on vous écoute. Carte blanche.
Mon cher Adil, j'avoue que cette semaine, j'ai tremblé énormément. Non pas quand vous m'avez annoncé que vous alliez remplacer Pascal Praud sur CNews, mais quand j'ai appris que la reine Elisabeth II avait été hospitalisée parce qu'elle était fatiguée.
C'est vrai.
J'adore ce mot de fatigué employé pour les chefs d'État, car ça peut désigner un cancer de prostate pour François Mitterrand, un lymphome de Hodgkin pour Pompidou, ou le 33e AVC du président Bouteflika. Vous, quand vous êtes fatigué, Adil, on sait ce que vous avez dépassé, votre consommation habituelle de cocaïne qui s'élève à 1
Je tiens à dire à nos auditeurs, attention, on est en train...
On est très sérieux.
On est très sérieux, c'est ça.
On est très sérieux.
Ouais.
J'ai tremblé, car j'ai eu peur de ne plus jamais voir cette ambassadrice mondiale du tailleur jaune citron, ouverte à Gada, avec le chapeau assorti, secouant la main pour saluer le bon peuple qui s'extasie devant un dirigeant au pouvoir depuis 69 ans, 8 mois et 20 jours. Fermons les yeux à Dil et imaginons 69 ans de règne d'Éric Zemmour.
Aïe, aïe, aïe.
C'est en effet le plus vieux dirigeant en poste et le dernier gouvernant de la, qui ait survécu à la Seconde Guerre mondiale, à l'exception, bien sûr, d'Adolf Hitler, qui, comme chacun le sait, n'est pas mort et vit au Chili dans une maison de retraite avec Elvis Presley et Michael Jackson. Ceci est purement incroyable à l'époque du zapping des influenceuses. Une des icônes des dirigeants du monde est une mamie qui porte peut-être en plus de ses chapeaux à plumes une garniture pour ses fuites urinaires. Oui. Incroyable permanence qui rend malade le prince Charles, qui chaque fois espère que son tour est enfin venu, malgré sa prostate qui grossit année après année. Et pourtant, elle en a vu des tempêtes. La Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la décolonisation et le rétrécissement de l'Empire, les scandales, l'affaire Lady Di, première femme victime du grand remplacement qui a fini dans les bras d'un Égyptien, un vulgaire bougnoule, les scandales sur sa fortune personnelle, estimée tout de même à 450 milliards de dollars. Et les révélations des Panama Leaks qui ont montré qu'une partie d'entre elles, de cette fortune, était investie dans les paradis fiscaux. Cette femme, qui a au moins un point commun avec mon épouse, elle ne sourit jamais.
Pardonnez-moi, docteur.
Il est fou, ce docteur. Cette femme, disait, est rassurante par sa permanence. Dans ce monde où tout change, elle est immuable, malgré le temps qui passe. Peut-être c'est ce qui nous manque en France. Quelqu'un au-dessus de l'agitation, du buzz, de la polémique. Et quand on regarde notre classe politique, on est loin d'être rassuré sur ce point. Alors, God save the Queen.
Merci, the Queen. J'avoue qu'il était assez bien, ce billet d'humeur. Il m'a fait trembler. Merci, mon cher docteur.
À votre service. Pensez à vous.
Moi, j'ai une petite question, après. Oui, c'est ça.
On va le soigner.
Je vais aller me faire soigner, tiens. Je viendrai vous voir, mon cher docteur.
Avec joie.
Et 20% des lits fermés à l'hôpital, faute de soignants, on parle de 20 000, hein, quand même. Docteur, il y a de quoi s'inquiéter Vous me l'aviez annoncé déjà quelques mois.
Oui, sur votre antenne, j'ai dit à plusieurs reprises. Moi, j'ai trouvé un nom pour ça, j'appelle ça la tentation de Venise. Ça fait des mois que les infirmières ont disparu, parties dans les centres de vaccination, parties dans le sud de la France. Il y a 3000 lits fermés à la PHP. Il y a des postes de praticiens hospitaliers vacants dans tous les hôpitaux de France et de Navarre. C'est une situation...
On parle de 20 000.
Il y a un très très gros retard à l'allumage de la part du gouvernement qui n'a pas perçu la situation depuis trop longtemps et qui s'est contenté des mesures du Ségur qui n'ont convenu à personne. Il faut se souvenir...
Vous aviez alerté il y a quelques mois, je me rappelle.
Et même avant la crise du Covid, l'hôpital était déjà très très malade. Et le Covid n'a fait que surligner le mal-être des soignants dans les hôpitaux. Là, on est devant un danger immense. La fin du service public hospitalier et nos hommes politiques, là encore, sont très, 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 très en deçà de ce qu'il faudrait faire.
Ouh là là, on va suivre très, très près. Merci, mon cher docteur. À mercredi avec autant de plaisir. Prenez soin de vous.
Avec joie. Merci, à bientôt.
Merci, 19h36, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Alors, mon cher Emmanuel Dupuis, vous apprêtiez à répondre justement à la question où mettre les moyens et la répartition des moyens et prioritairement dans quel secteur ?
Alors, donc, c'est un petit peu un mix de tout. Hein. Encore une fois, il n'y a pas une priorisation vers la police, parce que ça donnerait en plus un symbole qui, à mon avis, serait pas le bon, c'est-à-dire un durcissement de la politique répressive. Je crois que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que chaque situation doit être analysée par son localisme, et qu'il ne faut pas administrer, comme on l'a fait, hélas, depuis 40 ans, une vision un peu normative, une vision administrativo-centrée ou centralo-centrée, si je puis m'exprimer ainsi, où ça marcherait autant à Marseille que ça marcherait dans la banlieue de Bayonne. Je crois qu'au contraire, il y a des spécificités locales dont il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'État qui fasse cette analyse, il faut que ce soit les élus locaux, qu'on leur donne la parole. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un grand ajournimento de la politique social dans les quartiers défavorisés, mais qu'ils puissent être plus associés qu'ils n'ont été jusqu'à présent. Ça participe du principe de la déconcentration, ou si on va plus loin, de la décentralisation, avec un certain nombre d'élus qui sont de bonne volonté et qui sont tout à fait prêts à jouer le jeu pour que, encore une fois, les citoyens aient confiance en leurs institutions. Parce que si, et je termine une phrase avant de donner la parole à Gamal, si vous n'avez plus, quand vous êtes élu, la capacité d'agir, eh bien, vous faites quoi ? Vous vous recroquevillez dans votre, dans vos certitudes, et vous êtes obligé de constater un manque ou une carence d'investissement. Je suis très heureux que le président Macron ait décidé de venir à Marseille, mais qu'il ait pris 4 ans et demi pour venir à Marseille pour dire que c'est scandaleux, là, c'est quand même inacceptable.
Eh bien, vous nous dites ce que vous en pensez au 01 53 48 3000. On marque la dernière pause pub avant de se retrouver pour la dernière ligne droite des informés. Je redonne la parole aussi également à Gamal Abina pour l'écouter et entamer d'autres sujets. Celui des du sondage présidentiel 2022. Beaucoup s'inquiètent. Les Français qui sont sévères avec le PS. D'autres qui nous disent que Zemmour risque de se retrouver face à Emmanuel Macron. Et puis, on va le commenter, justement, ce sondage, et parler de d'Éric Zemmour à face à lui.
Pas que d'Éric Zemmour.
Non, pas que d'Éric Zemmour.
De la présidentielle.
On va parler de la campagne présidentielle 2022. On a suffisamment parlé d'Éric Zemmour. Je pense qu'il y a aussi la place à tout le monde. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h42 précisément dans les informés, justement le face-à-face avec Gamal Abina, réalisateur mais également aussi militant engagé sur les questions de société, y compris racisme et d'autres aussi. Emmanuel Dupuis qui lui est le président de l'Institut IPSE. C'est parti, 01 53 48 3000 aussi si vous voulez réagir concernant la campagne présidentielle et les sondages.
Les informés, le face-à-face. Le face-à-face.
Présidentielle, messieurs. Alors justement, on va attendre d'abord votre réponse concernant donc la répartition aujourd'hui. Où doit-on mettre évidemment le plus d'argent? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est les associations de terrain? Encore une fois, Gamal Abina, on voudrait vous entendre avant d'entamer le second sujet.
Le maire de la ville a dit, après l'agression des flics qui se sont fait tirer dessus, il a dit on avait installé 60 vidéos de téléprotection.
Oui. Bon.
Il y a télésurveillance, protection, choisissez le vocabulaire qui vous intéresse. Ce qui se passe, c'est qu'on est capable de mettre 60 caméras dans la rue, ça c'est pas un problème. Ce qui se passe, c'est qu'on est capable de... Moi, j'ai une logique dans cette histoire, c'est il y a la politique du bâton et de la carotte. Mmh. Il faut donner la possibilité aux gens qui se comportent mal, soit de se redresser et de bosser, c'est ça qu'il faut faire, ou alors qu'ils soient punis, mais qu'il y ait un cadre législatif qui soit suffisamment contraignant pour que la punition soit exemplaire. Aujourd'hui, on ne doit pas fabriquer des délinquants. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'effectivement, pour sortir de ce cercle vicieux, on installe des dispositifs qui permettent de sortir de cette logique qui dit quoi? Qui dit l'oisiveté ou la délinquance. Ça, on n'en parle jamais de l'oisiveté. L'oisiveté est un facteur qui génère beaucoup de problèmes, soit des suicides, soit des actes d'incivilité, de délinquance, de violence dans les familles, bref. Et la deuxième chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est que j'ai eu à faire pas mal des petits jeunes délinquants qu'on a dû redresser nous tout seuls en grand, comme des grands, parce qu'ils menaçaient leurs parents. C'est-à-dire si la police travaillait de concert avec les juges, avec les parents, en disant aux parents, bon, qu'est-ce qui se passe avec votre fils? On va travailler avec vous et on interagira avec vous en amont, avant même qu'il puisse déraper. Ça va très très vite. Le fils est isolé, il ne va plus voir les petits délinquants, il n'y a plus l'effet de meute de bande qui se produit et on obtient des résultats nettement meilleurs. J'ai déjà eu cette expérience à l'époque dans mes relations. Donc, pour vous dire que si on veut sortir de cette logique-là, d'abord, l'emploi est essentiel, la formation évidemment.
Exact.
Et ensuite et surtout, être capable soit de donner une alternative dans la réussite, soit d'être extrêmement ferme quand quelqu'un recommence ou produit de la délinquance volontairement sans la moindre conscience. Parce que souvent, pas mal de personnes qui sont dans cette démarche de délinquance élevée sont des gens qui n'ont pas de conscience. Et la conscientisation, c'est difficile à donner de cette façon, quoi.
Allez, messieurs, vous savez quoi? On va parler de la présidentielle. Et j'aimerais qu'on commente. On est à 6 mois de l'élection présidentielle. 6 mois, c'est peu dire. Mmh. Et puis surtout, on a très peu de temps aujourd'hui. Alors Macron recule dans les intentions de vote, mais Le Pen et Zemmour progressent. Dans un autre sondage aussi, on dit que présidentielle 2022, Emmanuel Macron en tête au premier tour devant Zemmour. Le Pen troisième selon un sondage. Et puis aujourd'hui, les intentions de vote sont un peu plus précises. Alors messieurs, est-ce qu'on peut, à 6 mois de l'élection, dire que le match est gagné pour l'un ou pour l'autre? Mais surtout, je noterai que dans le sondage, celui qui gratte et celui qui monte progressivement, il s'agit d'Éric Zemmour avec des intentions de vote qui progressent, Emmanuel Dupuis.
Alors ça dépend de quel sondage vous parlez. Si vous parlez des 3 sondages d'affilée Harris Interactive, oui, Éric Zemmour est en tête. Mais il n'est en tête que dans les sondages Harris Interactive, rachetés par le groupe BVA. Ça a son tout en importance.
C'est vrai.
Il y a une constante, par contre. Mmh. C'est que dans tous les sondages, Emmanuel Macron reste...
toujours en tête.
Non, absolument. Pas en baisse, mais reste en tête.
Absolument.
Entre 23 et 25. Par contre, ça se joue entre la deuxième et la troisième place.
Absolument.
Donc, il y a une sorte d'effet psychologique. Zemmour pourra-t-il être au deuxième tour? Après tout, avec la marge d'erreur traditionnelle de 2%, le jeu se joue à 3. Ou le match se joue à 3. Vraisemblablement, dans la configuration où Zemmour serait candidat, où son parti, Vox Populi, serait mis en place, et où il commencerait à faire campagne. Là, pour l'instant, il fait du plastronnage médiatique, fort, mais il ne fait pas campagne. Alors, moi, je suis très dubitatif sur les sondages. Comme vous le savez, Adil et Gamal, moi, je fais la politique depuis 25 ans. J'ai fait plusieurs campagnes présidentielles. Quand on est de...
On peut rappeler le parti, hein, sans
problème. Oh ben non, parce qu'on a eu plusieurs. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En tout cas, j'ai fait la campagne.
Vous avez en date.
J'ai fait la campagne de 2002. Les centristes. Ouais. J'ai fait la campagne de 2002. J'ai fait la campagne de 2012, pardon. Et donc, j'ai fait la campagne de 2017 aussi. Bon, tout ça pour dire que les sondages, à un instant T, donnent une image du pays. Mais de là à dire que, parce que vous êtes en tête dans les sondages, vous avez gagné votre place au deuxième tour.
Non.
Là, c'est de la négation de la démocratie. Mmh. Voyons.
C'est clair.
Les sondages sont un succès d'année de la situation à un moment T. Comme vous l'avez dit, à 6 mois. Par contre, si la veille du sondage, la veille de l'élection, ou 2-3 jours avant, les résultats sont les mêmes, ça, c'est à prendre beaucoup plus au sérieux parce que les Français se décident dans les derniers. La dernière ligne.
Mais est-ce que le match est joué pour, par exemple, Éric Zemmour?
Bien sûr que non.
Est-ce que le match est joué pour Marine Le Pen? Est-ce que le match est joué pour Emmanuel Macron?
Encore faudrait-il qu'Éric Zemmour soit candidat.
Oui.
Encore faudrait-il que...
Six mois pour vous, c'est quoi? C'est trop tôt?
Encore faut-il...
On arrive vite. Oui,
encore faudrait-il que tous les candidats soient en campagne? Encore faudrait-il que tous les candidats soient... Et la capacité d'aller... Je vous rappelle que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 500 parrainages.
Oui.
Quels sont, parmi tous ceux qui sont sondés, je vois le sondage d'Harris, ceux qui ont déjà les 500 parrainages, pas la moitié. Donc, ça ne veut rien dire. Mmh. Ça ne veut rien dire. Mmh. C'est un taux d'appréciation ou c'est un taux d'occupation médiatique. C'est pas un taux de vote qui est avec certitude. Je vois là 23% pour Emmanuel Macron, 17% pour Éric Zemmour.
Donc, je peux
16%
pas.
Pour, donc, Marine, si je...
oui,
pour Marine Le Pen. Bon, après, le troisième, le quatrième, et j'en termine là. Xavier Bertrand, 14%. C'est une appréciation. C'est pas un bulletin de vote qui sera in fine mis dans l'urne.
Parce que le match Emmanuel Macron, Marine Le Pen, je peux considérer, ou on peut considérer qu'il reprend un peu ce qu'on avait vécu il y a 4 ans.
Ah ben, de toute façon, là se joue
bientôt 5 ans.
Là se joue le troisième tour, évidemment. Mmh. Et ce troisième tour, c'est évidemment le match retour. Mmh. Que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ce sera un candidat d'une droite plus ou moins conservatrice, plus ou moins dure, qui sera face à Emmanuel Macron. Il y a une certitude, c'est que la gauche aura beaucoup de difficultés à se qualifier pour le deuxième tour. Donc ce sera un match entre Emmanuel Macron et un candidat de droite.
Allez-y,
je suis choqué parce que je viens d'entendre. Non, c'est pas un candidat de droite, c'est un candidat d'extrême droite.
Non,
ce sera un candidat d'extrême droite, les autres ce sont des lièvres, et Zemmour est peut-être un lièvre qui ne s'est pas encore décidé. Il prétend vouloir se décider le 9 novembre. Vous imaginez le 9 novembre, ce que ça représente dans l'histoire. Pour ceux qui ne font pas l'histoire, c'est la date de prise de pouvoir par la force de Napoléon,
oui,
le dictateur.
Exact,
le 9 novembre, c'est aussi la tentative de prise de pouvoir par Hitler quand il a fait son coup d'embrasserie en 23, excusez-moi. Le 9 novembre, c'est aussi surtout la nuit la fameuse Kristallnacht. Le 9 novembre, c'est la chute du mur de Berlin. Donc Zemmour aime beaucoup, avec son sens de l'humour, se positionner. Sauf que c'est un produit médiatique qui était fabriqué par des hommes d'affaires. Ce n'est pas un produit sérieux, qui n'a absolument pas le niveau d'un chef d'État. Et j'ai d'ailleurs souvent tenté pour lui demander un débat direct pour en finir avec cette mascarade, parce que Zemmour est là pour amuser les galeries. Alors, il peut se prendre au jeu d'une volonté de se présenter à l'élection, parce qu'actuellement, il est en train de s'enfumer tout seul. Il fait tout son tour de France, il se prend pour un héros, le sauveur de la France, l'homme providentiel. Hitler disait la même chose. Mais c'est bien un discours d'extrême droite qui est tenu. Quand on ne parle, pour répondre à des questions économiques, que d'immigration, aujourd'hui la nouvelle mode c'est l'islam, quand on parle toujours de violence, de banlieue, de minorité, et qu'on n'a aucune idée des questions nationales de macroéconomie, quand on parle que de ça, on est d'extrême droite. Zemmour recycle exactement le discours, pas de Marine Le Pen, mais de son papa Le Pen.
Ouais.
C'est le même discours, à une nuance près, je finis. À une nuance près de Zemmour, c'est que Zemmour est d'origine algérienne. Donc c'est vrai que le côté bougnoul sur son visage, il n'est pas masqué. Et surtout, on sent bien que c'est les juifs honteux qui avaient été développés dans les années 30 par les Allemands, par les juifs allemands qui disaient quoi? Que le juif bourgeois allemand, Zemmour est un juif bourgeois, dit « moi je suis un bon citoyen de ce pays, donc français en l'occurrence ou allemand pour les Allemands d'époque, et le juif polonais qui est un pouilleux mérite d'être mis dehors ». Ben Zemmour a le même discours. Il dit ça pour les juifs d'Afrique du Nord, il le dit pas trop parce qu'il n'ose pas, mais il le dit pour les Maghrébins, sauf qu'il est de la même essence. Donc c'est pour ça que je dis non aujourd'hui, effectivement, monsieur Macron.
Et le grand rabbin de France, je tiens à le dire, Haïm Korsia.
Absolument, qui est très inquiet.
Qui est très inquiet et qui dit évidemment cette déclaration concernant Éric Zemmour. Il est juif, point d'interrogation. Il est antisémite, certainement. Raciste, évidemment.
Et ça en dit long.
C'est le grand rabbin de France qui dit ça. Ça en dit long. Qu'est-ce que vous en pensez, justement?
Mais oublions pas que le grand rabbin de France est d'origine nord-africaine. Je tiens à le préciser.
Bon, je suis d'accord avec l'interprétation d'Aïm Kersia qui est bien nommée. Mais encore une fois, comprenez mon propos. Moi, j'en ai rien à fiche d'Éric Zemmour. C'est pas le problème.
Mmh. On peut pas concilier à 18%. Mais non, il a raison, Kamal Abina.
Adil.
Alors laissons-le,
c'est ça. Vous faites partie du jeu.
Non, mais non,
si,
du tout.
Si vous non. dites, vous focalisez sur la certitude que parce qu'il a 18%, c'est essentiel de parler, vous oubliez l'essentiel. Mmh. Bien sûr qu'il faut en parler, mais si vous phagocytez le débat, forcément tous les autres candidats vont devoir se positionner.
C'est ce qu'il faut actuellement. Il a un discours qu'il est en train de donner.
Mais alors pourquoi n'y participons-nous ?
Non, mais le problème, c'est que c'est une farce.
Donc il ne faut pas y participer.
Mais non, le problème, je dis que c'est une farce. Zemmour a donné un discours qui est très orienté extrême droite avec l'obsession de l'immigration et l'islam. Et le problème, c'est que quand on parle que de ça, parce qu'ils ne sont pas capables de régler les autres problèmes, eh ben ça arrange tout le monde. Et le problème de Zemmour, c'est pas de savoir que lui, ça.
J'en parle
parce que moi, j'ai envie de dire aux auditeurs. Puisque moi, je l'ai provoqué plusieurs fois pour un débat direct à ce monsieur Zemmour qui semble manquer de courage. Il a que des sparring partners qui sont d'accord avec lui en plus. Hein. Je suis désolé, mais quand on a la journaliste d'origine tunisienne là, qui est Sonia Mabrouk, quand on a une Sonia Mabrouk qui a un discours extrêmement radical de droite face à un Zemmour, ils sont d'accord.
Ça n'engage que vous. Quand
je le dis clairement. Le bouquin qu'elle écrit, il est quand même pas en demi-mesure. Bon. Quand on a ce genre de personnage là qui va interviewer Zemmour, je vois pas où est la confrontation. Il faut être un peu sérieux. Je dis aux auditeurs que s'ils veulent vraiment entendre un vrai débat avec quelqu'un qui va le bousculer. J'attends de monsieur
Emmanuel Dupuy.
Juste pour finir, que les auditeurs n'hésitent pas à demander à Zemmour de faire ce débat contre moi. C'est où il veut, quand il veut. Ce serait préférable, évidemment, ici à Beurre FM.
Je crois que on serait tous intelligents. Au lieu de focaliser sur les hommes, qu'on focalise sur les idées. Parce qu'un candidat à l'élection présidentielle, c'est avant tout des idées incarnées. Mmh. Alors si on focalise sur l'homme, on a tous perdu.
Parce qu'il n'y a pas d'idée.
Encore une fois, j'en ai rien à fiche de Zemmour. C'est pas mon problème. C'est pas mon souci. Je ne l'aime pas, je ne voterai pas pour lui et je le combattrai autant qu'il faut le faire. Mais à force de nous amener tous à nous dire c'est aussi simple que ça, c'est contre lui, c'est un piège énorme. Donc je n'y rentrerai pas. Ce que je souhaiterais, c'est qu'à 6 mois l'élection présidentielle, on sache précisément qui est candidat. Pour l'instant, c'est pas tout à fait sûr.
C'est vrai.
Que l'on sache quel sera le programme de tous les candidats. Et une fois qu'on aura ça, Éric Zemmour et les autres sera obligé de dire quelle est sa vision de la France, quel est son projet, et c'est comme ça qu'on en sortira, parce que sinon, on s'est piégé, et jusqu'à la veille du scrutin, on n'aura pas parlé de fond, on n'aura pas parlé présidentiel, aura un sondage qui aura fait l'élection présidentielle.
Merci, messieurs.
C'est une négation absolue de la démocratie.
Merci, messieurs, pour ce débat animé et toujours passionnant.
Mais on est d'accord.
Mais vous allez nous accompagner durant tout cette campagne.
On a 6 mois pour rester ensemble.
Avec plaisir.
C'est toujours un plaisir.
Avec les auditeurs. Merci à Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE. Merci à Kamal Abina, réalisateur et militant engagé. Merci à vous deux. À la réalisation, c'était Yanis Bilal Nedman. Il est où, Bilal Nedman, pour nous annoncer le programme ? Merci aux auditeurs.
Retard, Bilal.
Justement,
allez.
Merci aux auditeurs 01 53 48 3000. Bilal, Faut-il Bonsoir, Bilal Nedman. Le sommaire qui nous attend dans une poignée de minutes dans Time Sport.
On va parler des retrouvailles. Ce soir, il y a le match Nice-Olympique de Marseille, du côté de Troyes. On parlera aussi de Giroud, encore décisif du côté du Milan AC, sans oublier Paris 2024. Adil, on est à moins de 1000 jours. Voilà.
Riche.
Et la Coupe du Monde au Qatar, alors.
La Coupe du Monde au Qatar, on va la préparer. On la prépare, nous, tous les jours.
Bilal, c'est de 20h à 21h. Il vous les attend dans une poignée de minutes. Merci, Bilalou. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.